pour la Saint-Valentin, nous allons recycler l'énergie amoureuse plutôt que de la perdre. Donc, si on mettait une dynamo là où il y a de l'amour, si on mettait une dynamo au bout de toutes les jambes en l'air, et oui, la vie redeviendrait claire, on aurait de l'énergie renouvelable jusqu'à la fin des jours. Si on mettait une dynamo sur la bête à deux dos, ça ferait assez de lumière pour éclairer la terre, chauffer les oiseaux qui ont si froid l'hiver. Ce serait gratuit, fini les sacrifices. On se ferait toutes les nuits de grands feux d'artifice. On ferait électrique tourner les jambes des vélos, rouler les chemins de fer, avancer les bateaux, fondre les esquimaux. Non, ça, le réchauffement s'en occupe déjà. Donc si on mettait une dynamo, là où il y a de l'amour, les corps à cœur feraient leur numéro. Mais comme l'amour est aussi un exercice physique, il faut donc boire de l'eau fraîche et se nourrir. Vous me boufferez donc des OGM Monsanto validés par l'indépendante Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ils nous l'ont dit cette semaine, aucun risque sur la santé. Bien, merci beaucoup. Mais, la dissémination avérée, la main mise sur le vivant, l'emprisonnement de l'agriculteur dans son OGM doré, le fait qu'il n'y ait aucun bénéfice pour le consommateur, ça, il n'en est pas question à l'AFSA. C'est pas leur boulot de répondre à ces questions triviales. Vous êtes des mauvais Français, vous n'en voulez pas. Et vous ne pensez qu'à l'amour, à la bagatelle. Alors, j'y retourne. Si on mettait une dynamo, là où il y a de l'amour, on a déjà l'hydraulique, la biomasse, la géothermie, l'éolien, le solaire. L'amour dégagerait moins de CO2, bien sûr, que les centrales thermiques. On pourrait relier ça à une batterie ou bien au réseau. Et puis chacun contribuerait à l'indépendance énergétique du pays comme il peut. On verrait des petits vieux comme des pierres à briquet se frotter les osselets. Sortir un kilowatt, ce serait déjà bien, bien sûr. Les jeunes, MP3 aux oreilles, pas loin de l'ordinateur, feraient de la braise de leur peau transformée en chaleur. Une turbine au bout du cœur. Ça cracherait des mégawatts. Vive la jeunesse! Eh oui, des lignes à haute tension partiraient de la maison. Ou bien on garderait l'énergie pour soi. Et quand on aurait une panne, eh bien on irait se brancher chez le voisin d'à côté. On serait obligé de s'aimer. De l'énergie, on en aurait de trop, bien sûr, il y aurait des pointes et puis bien sûr, il y aurait des heures creuses. C'est intermittent les énergies renouvelables, mais de l'autre côté du monde, eh bien on prendrait le relais. On en serait fiers, ce serait une vraie coopération planétaire. Et pour lancer cette affaire, me direz-vous, eh bien il faut inciter l'énergie amoureuse, subvention à la clé, ça risquerait même de coûter un peu moins cher que de EPR. Ah, ce serait presque gratuit. On décentraliserait l'énergie de la vie, qui ne serait plus tenue en laisse, et on ferait toutes les nuits de grands feux d'artifice. Si on mettait une dynamo, là où il y a de l'amour, ce serait son lumière tous les jours sur la Terre. Alors, amis chercheurs, vous l'avez compris, nous qui sommes un peu en retard quand même en France en énergie renouvelable, il y a du boulot. On va vous accompagner peut-être sur la route des vacances que l'on vous souhaite tout à fait agréable avec au sommaire de cette émission, donc ce magazine d'environnement, trois initiatives, donc avec des gens qui font, qui pensent et qui vivent déjà demain, chacun à leur domaine, à leur échelle. On va rencontrer un viticulteur de Saint-Émilion, Philippe Bardet. On ira dans la ville de Lausanne rencontrer le monsieur énergie de cette ville et là, ils ont quand même un sacré boulot aussi d'avance. Et puis, on s'intéressera à une future piscine de Saint-Brieuc chauffée aux effluents de la ville. Ouais, c'est très, très curieux. La semaine dernière, je vous parlais de... On se chauffait à l'aide des brebis du cause. Là, ça va être les effluents, vous verrez. Il y aura notre séquence carton rouge, carton vert. Et puis, une nouvelle série prospective avec Frédéric Danhé. Quelle France en 2030 ? Est-ce que l'on peut s'adapter au réchauffement ? Eh bien, oui, on va le voir. On va décliner ça tout à fait régulièrement. Mais pour débuter, on a quand même notre côté nature. Bien sûr, et puis il est là. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va partir, Jean-Marie, toujours sur La raison du plus faible, édité chez Fayard. Vous nous racontez là de très belles histoires et nous sommes quand même sous l'oreille, on le sait, de mangez-vous les uns les autres. C'est un peu ça.
Oui, alors nous allons maintenant montrer ce qu'il y a de pire dans la nature.
Chouette.
Ce qu'il y a de pire dans la nature. Alors on croit bien sûr que les animaux mangent les plantes. D'abord, il y a des plantes qui mangent les animaux, les carnivores. Alors, certaines plantes, il y en a 500. Sur les 270 000, il y en a 500. Elles émettent des sucs digestifs. Lorsqu'un insecte tombe, descend sur la feuille, il est digéré. Pas tué, mais digéré. On a même vu à Lyon, au parc de la Tête d'Or, une souris qui était tombée dans une plante carnivore et qui était en train de digérer aussi. C'est un cas unique qu'on n'avait jamais vu. Il digérait la souris. Mais il y a plus méchant encore. Il y a ces insectes qui vraiment font une tonte rase, ce qu'on ne voit jamais dans les champs. Mm-hmm. Quand vous avez des vaches qui broutent, il y a toujours de l'herbe qui reste parce qu'elles ne broutent pas tout. Mais quand il y a les chenilles processionnaires sur des pins, elles broutent tout. Il n'y a plus rien du tout.
Et maintenant, nous les avons à Paris. Hein, faut pas oublier ça.
Elles sont montées à Paris. Oui, et ça, ce sont des prédateurs redoutables. Mais c'est rien à côté de petits insectes
qui s'appellent
gentiment les cécidomidés. Mmh. Alors ces petits insectes, ils sont très très drôles parce qu'ils mangent des champignons. Ils sont attirés par l'odeur très agréable des champignons. Alors ils atterrissent sur un champignon. Et puis quand ils sont atterris sur le champignon, ils sont pressés de manger. Alors ils dévorent le champignon. Et puis l'insecte... Il va essayer de se reproduire aussi. Alors, il ne fait pas de bébé. Il n'émet pas des spermatozoïdes chez le mâle et puis des ovules chez la femelle pour faire des œufs. Non. Il se reproduit par parthénogenèse. Il va faire dans son corps une cellule qui va se développer en un embryon, qui va se développer en une larve. Et la larve, elle s'est faite tellement vite, elle est tellement tôt, mais ils sont pressés, c'est des pressés. Il y a comme ça des gens politiques pressés, mais il y a des insectes pressés aussi. Alors, ils sont pressés. La larve, elle n'a pas attendu que la mère ait fabriqué un utérus, elle n'a pas eu le temps. Alors, elle mange le ventre de la mère. Elle dévore la mère. Cool. Elle la dévore complètement, et il ne reste plus que le squelette. Vous savez, c'est le squelette d'insectes tout léger, on souffle dessus, il s'envole. C'est ce qu'on appelle le squelette chitineux, parce que nous, le squelette, il est dedans, et la chair est dehors.
Donc la chitine.
Et la chitine, elle est à l'extérieur, et la chair est dedans, c'est le contraire. Donc, voilà, donc cette larve féroce mange la mère, et quand elle a mangé la mère, elle s'empresse de manger le champignon.
Alors c'est quoi? Parce que ça s'appelle, vous avez dit, son petit nom, c'est là...
Cécidomidé.
C'est quoi? C'est une mouche?
C'est un moucheron.
Un moucheron.
Oui, tout à fait. D'accord. C'est un petit moucheron. Alors, elle mange le champignon, et puis elle va refaire de nouveau dans son ventre des larves qui vont la manger, et puis ainsi de suite. Et ainsi, on a un système qui est formidable parce que les naissances sont extrêmement fréquentes. C'était tout à fait le contraire de ce qu'on a raconté la semaine dernière sur les grands palmiers. Les naissances sont extrêmement fréquentes et le champignon, il y passe en moins de 2. Et puis, il n'y a plus rien à manger. Ouf, alors quand il n'y a plus rien à manger, comment ça se passe?
Il va faire ses courses ailleurs.
Oui, tout à fait. La larve se dit qu'il faut qu'elle devienne adulte. Alors elles deviennent adultes, les larves, et puis elles produisent des adultes mâles, et puis des adultes femelles, puis ils vont copuler, ils vont faire comme tout le monde, ils vont devenir raisonnables, avoir des ailes, les insectes en question, et puis ils vont filer sur un autre champignon. Puis dès qu'ils sont sur le champignon, hop, ça repart. C'est-à-dire que dans le ventre du malheureux adulte qui avait réussi quand même cette performance, il y a de nouveau une larve qui se fait par parthénogenèse, qui mange aussi sec sa maman, et puis ainsi de suite. Mais où l'affaire se complique d'une manière intéressante, c'est chez les aphidés. Alors ça, c'est les pucerons.
Alors les aphidés, c'est ça.
C'est les pucerons. Oui. Et là, c'est encore bien plus extraordinaire parce que quand la larve est en train de manger la mère, vous ne devinerez jamais ce qu'elle fait.
Que fait-elle ?
Avant d'avoir tué la mère et d'être sortie de la mère pour aller manger le champignon, elle fabrique dans son sein, dans son ventre, des embryons par parthénogenèse qui la mangent elle. C'est-à-dire que vous avez une larve qui mange sa mère, laquelle mange sa mère.
C'est les poupées russes.
Les poupées russes. Oui. Donc la larve mange sa mère qui mange sa grand-mère.
C'est ça. Alors, ça fait des problèmes de famille terribles. Les héritages, à mon avis, dans ces familles-là, c'est incroyable.
C'est vrai. Oui, alors, c'est très intéressant parce que c'est un système absolument redoutable où il y a tout qui meurt. Le champignon, il est nettoyé. Les insectes sont nettoyés aussi. C'est à la force de la prédation à l'état pur. Et quand la prédation est comme ça à l'état pur, eh bien, tout le monde meurt, puisque la proie et le prédateur, ils meurent ensemble. C'est ça. Alors c'est le comble de la faiblesse. On trouve ça très fort, leur système, hein, c'est impressionnant. Ils se mangent les uns les autres, mais dans le sens exact du terme. Les prédateurs se mangent aussi les uns les autres. Il n'y a pas seulement les prédateurs qui mangent les proies, il y a les prédateurs qui s'entre-dévorent les uns les autres en mangeant les proies.
Il y a un côté un peu ultra-libéralisme là-dedans, peut-être.
Un petit peu. Alors, vous savez, ceci explique pourquoi ce cher Darwin, dont on dira du bien aussi, a écrit à son ami l'éminent botaniste Hooker ceci. Parlant de la nature, il a parlé de sa maladresse, de son gaspillage, de ses bévues, de sa bassesse, de son horrible cruauté. C'est comme ça qu'il a défini la nature. C'est ça la loi de la jungle. Là, nous avons un exemple tout à fait frappant sur la loi de la jungle. Et bien, c'est comme ça qu'imaginaient la nature les gens du 19e siècle. Et si j'ai pris cet exemple, c'est pour montrer que la nature peut être très cruelle et que nous ne sommes pas des rêveurs, que nous ne disons pas la nature c'est merveilleux, c'est gentil, qu'on n'est pas des débonnaires non plus, qu'on voit les choses comme elles sont. La nature est cruelle, la nature peut être au contraire amicale, la nature est amorale, c'est l'homme qui est appelé à développer le sens moral, ne demandons pas à la nature ce qui n'est pas de sa compétence. Mais dans la nature, il y a les deux. Il y a la compétition et la coopération.
La raison du plus faible, Jean-Marie Pelt, vous retrouverez donc cette histoire éditée chez Fayard. Et après cette nouvelle délicieuse, vous aurez un peu de douceur avec de la musique, ça ne vous dérange pas
hein? Non, je crois que c'est nécessaire. C'était quand même un peu dur aujourd'hui.
Ah bon, mais avec un tel sourire. Merci beaucoup Jean-Marie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Partout, c'est lui qui a fleuri. Tes oiseaux qu'avec tes ailes. Mon cabou dans l'allée des soupis. L'homme qui a voltigé. Colibri, vini dans que moi. Le violon, guitare, en bavale comme moi. Cave moyen, sérénade. La liane d'argent. Du bel muguet, ma régalante. La 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 Ma rue la caille, maman, moi, c'est moi qui ai deviné. Deuxième, moi, la splaire et jeudi. Plus violon, guitare, en babal comme moi, chanter en souvenir, moi. La liane d'argent, du bel muguet, moi, fané, puis je.
La 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 la. C'était la sérénade du Muguet, un peu avant l'heure, on vous l'accorde, mais on en a besoin quand même de ce Muguet, avec une voix d'ailleurs toujours jeune, de Jenny Alpha. Elle a un peu dépassé les 90 ans et donc c'est dédié à nos amis des DOM, puisqu'elle est originaire de la Martinique. Et nous allons revenir, nous, ici en métropole, avec nous allons aller dans la région de Saint-Émilion. C'est pas pareil, hein, c'est pas exactement le même climat, mais c'est très agréable aussi. Le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux a lancé son plan carbone pour voir effectivement quel gaz à effet de serre donc il relarguait. Donc c'est très bien qu'une interprofession fasse cela et donc mesure tout cela. Et puis bah ça se décline avec les viticulteurs et chacun fait ce qu'il peut effectivement dans son coin parce qu'il a envie de le faire. Et c'est le cas de Philippe Bardet qui est donc viticulteur dans le Libournais. Donc c'est notre première initiative, donc des gens qui font dans ces hauts de mon amour. Ah bah on arrive là dans votre propriété. Philippe Bardet, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Philippe, on est chez vous dans le Libournais. On a la Dordogne qui est pas loin, hein, elle est juste derrière.
Là. Voilà, elle est juste là, devant nous. On ouais. est situé sur le premier barrage naturel de la Dordogne.
D'accord.
Voilà, exactement.
Alors si on doit dépeindre un peu le paysage et expliquer aussi comment les hommes ont vécu et vivent encore ici, ce sont plein de petits villages qui sont resserrés. Et en fait, ça donne aussi beaucoup à la fois de convivialité dans ce coin-là et puis aussi beaucoup de solidarité.
Oui, tout à fait. Nous sommes tous des vignerons et on est unis derrière la production de la vigne et compte tenu de la demande sociétale, on s'est unis pour trouver des solutions pour améliorer la qualité du vin tout en respectant notre environnement qui est en fin de compte notre outil de travail.
Alors ici, donc Château du Val d'Or, donc qui n'est pas loin, chez vous Philippe Bardet, quand on parle de développement soutenable, vous faites attention à ça. Alors, vous n'êtes pas d'ailleurs vous-même un bio, vous avez des voisins qui sont des copains à vous qui font du bio, mais qu'est-ce que vous faites concrètement effectivement pour améliorer l'affaire?
En premier lieu, la réflexion de base, c'est disons nous sommes des gestionnaires d'écosystèmes.
Oui.
Qui nous permettent de, par tout un tas de petites mesures sur l'enherbement, sur la façon de gérer nos sols, nos fumures, de stimuler la vigne pour qu'elle soit en équilibre. Tout est affaire de mesures et d'équilibre.
Oui. Là, on voit ça effectivement parmi ces rangs. Bon, vous laissez aussi un peu d'herbe, c'est pas un drame, quoi. Donc,
au contraire, hein. nous laissons volontairement l'herbe naturellement s'installer pour que l'équilibre se crée. Et c'est un équilibre qui est utilisé aussi bien au niveau de la gestion des arthropodes. Il y a des insectes nuisibles qui sont gérés par des insectes auxiliaires, et aussi bien au niveau de la flore et des champignons qui sont associés à ces différentes flores.
Alors justement, ça c'est intéressant que l'on parle des bestioles parce que vous faites au maximum, on va dire, avec la nature et pas forcément contre. Donc vous vous dites, on a des bestioles qui existent, qui vont jouer le rôle de régulateurs, de prédateurs. Donc comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Quoi.
Voilà, la lutte biologique ou disons la production intégrée dans son sens général.
Ouais.
La problématique, et ce qui coûte le plus cher, c'est d'observer et après avoir bien observé, de comprendre ce qui se passe.
D'accord.
L'exemple le plus simple qui est utilisé et c'est une réussite girondine et même une réussite nationale, c'est la gestion d'un parasite qui s'appelait l'araignée rouge.
Oui.
Les scientifiques et les chercheurs nous ont montré qu'au milieu des années 80, qu'il y avait une araignée qui mangeait l'araignée rouge. Il suffisait simplement de la préserver, cette araignée prédatrice, pour que le problème soit réglé. Résultat, aujourd'hui, il n'est pratiquement plus utilisé d'acaricide en France pour la vigne.
Qu'est-ce que c'est l'ennemi, on va dire, donc du vigneron? Alors il y a les champignons, donc il y a le mildiou, il y a l'oïdium. Bon, ça c'est le lourd. Dès qu'on a de l'humidité, ça vient. Ça.
Voilà, c'est ça. Parce que pour le vigneron de base comme moi, les problèmes d'arthropodes, on est capable de les gérer, de les observer.
Oui.
Par contre, on a un vrai problème avec les champignons. Les champignons, c'est tellement complexe qu'on ne sait pas. Et on a besoin des scientifiques, on a besoin de la modélisation. C'est très difficile pour nous de comprendre ce qui se passe et le fait de comprendre, ça nous permet d'anticiper. Donc étant donné qu'on ne peut pas anticiper, on est très prudent, on est à peur de ces maladies qui sont quand même des maladies où on peut faire zéro récolte si on laisse faire le mildiou par exemple.
Alors Alors, qu'est-ce que l'on fait d'autre ? Là, on parle donc de méthodes un petit peu, alors à la fois novatrices. Bon, attention, ici, ça vous le faites depuis déjà longtemps, mais sur quoi on agit ? Alors, on agit sur quoi ? Sur l'énergie, on essaie évidemment de baisser sa consommation.
Voilà, donc certes, on diminue la quantité de CO2 produit, mais aussi on protège notre portefeuille.
Oui, c'est ça. Donc voilà. Là, vous avez réussi à baisser quoi, vous, en faisant
attention ? Donc, nous, avec des systèmes de construction un petit peu modernes, avec des styles briques monomures ou des isolations de plafond très importantes, ou alors des flux de caloporteurs dans le sol, dans la dalle. L'idée, c'est de chauffer de l'air avec de solide. Donc, on fait passer de l'eau chaude ou de l'eau froide dans le sol. Ce que faisaient les Romains, tout simplement. Oui, on n'a rien inventé. Oui. On n'a rien inventé.
Mais
ça fonctionne bien. Ça, c'est ce que j'ai appliqué à titre individuel. Il y a certains de mes confrères qui brûlaient les sarments dans les vignes. Et on trouvait tout judicieusement, au lieu de le brûler dans les vignes, il le brûle dans des chaudières pour produire de l'eau chaude à des fins sanitaires ou à des fins de chauffage.
Oui, parce que le sarment, enfin, ça doit être une sacrée quantité hein, pour vous. Donc je ne sais pas combien vous avez d'hectares, vous, à titre personnel.
Voilà, oui, ça fait une grosse quantité. Donc on arrive à...
Vous faites de la biomasse, quoi. Donc.
Voilà, c'est de la biomasse.
Quelques mots sur la brique monomure, parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas encore exactement ce que c'est.
Donc c'est de la terre cuite, pour respecter tout ce qui est les problèmes énergétiques et les problèmes sanitaires ouais. qu'on peut avoir avec le vin, parce que c'est là-dedans je mets mes barriques. Donc l'élevage, il y a une notion d'écosystème dans l'élevage des vins, donc il faut qu'on ait un lieu sain. Donc la terre cuite est un lieu sain, et ça nous permet par la construction, alors là aussi c'est une technique très moderne, les fabricants ont fait beaucoup d'alvéoles, et ce sont des briques qui sont très larges, et qui ont beaucoup d'air à l'intérieur, qui permet d'avoir une très belle isolation thermique. Il faut conserver de l'air dans une masse solide.
C'est ce qu'on serait bien compris, vous savez, les ours blancs, qui sont quand même très peu touristes dans votre région, et qui ont de l'air à l'intérieur de leurs poils.
Voilà, tout à fait. Il faut beaucoup observer la nature pour faire des progrès.
Oui,
Je pense qu'on a régressé dans les années passées, parce qu'on a oublié d'observer la nature.
Voilà, donc rencontre avec Philippe Bardet, donc ce viticulteur dans le Libournais. Alors c'est vrai qu'en Aquitaine, comme en Île-de-France, et aussi certains coins d'Alsace, puis même d'autres quand même, on peut aussi pratiquer la géothermie. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. On peut pas le faire partout, mais là, en l'occurrence. Alors il y a d'autres gens, deuxième initiative, là qui remonte à plus de 25 ans, parce qu'on va aller du côté de la ville de Lausanne, rencontrer donc Georges Ohana, qui est le responsable énergie de cette ville. J'ai rencontré d'ailleurs, je tiens à le préciser, lors d'une manifestation qui s'appelait les Plans Climat, qui était organisé par l'ADEME à Dole, dans le Jura, donc, et où donc là, effectivement, on s'intéresse à ce climat, mais au niveau d'un territoire, pour essayer de mettre de la cohérence dans tout cela. Et donc, j'ai rencontré cet homme, Georges Ohana. Lausanne fait partie d'un réseau qui s'appelle Citergie, qui est né à peu près dans la fin des années 90, qui est en gros une labellisation des collectivités. Une ville comme Besançon, d'ailleurs, en fait partie. Et alors, racontez-nous, Georges Ohana, donc, vous qui avez un peu d'avance quand même sur ces domaines, comment ça se décline?
Alors, on a 6 domaines d'activité. Le premier, c'est le développement territorial. Donc, on sait qu'actuellement, un des objectifs, c'est de limiter l'étalement urbain et de densifier les villes. Alors, pour ça, on a pris plusieurs actions, mais la plus importante, on a complètement repris notre plan d'urbanisme, qu'on appelle le plan global d'affectation à Lausanne. Ça veut dire qu'on a fait un nouveau cadastre des territoires communaux qu'on a rendu constructibles. Et on a défini après un partenariat privé-public avec des acteurs de l'économie pour construire 3000 logements durables.
Oui. Alors, faut quand même rappeler une petite chose, c'est que, évidemment, vous êtes un État fédéral. Le canton, on va dire que c'est quand même un mini-État. Et puis la ville, c'est un micro-État. Donc, vous avez quand même aussi une latitude qui est assez intéressante pour prendre à bras le corps ces problèmes d'énergie et de climat.
Ah, tout à fait. On a toutes les compétences. Ouais. Mais indépendamment des compétences, on doit quand même, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, on est obligé de prendre l'accord de la population dès le départ. C'est pour ça qu'on a instauré une démarche participative qui permet d'impliquer le citoyen dès le début du projet.
Et les gens viennent vraiment, hein, c'est des réunions de quartier, parfois c'est un peu plus large que ça, et vous faites le plein.
Hein. Ah oui, non, les gens viennent. Bon, c'est pas forcément le plein, comme vous dites, mais au moins, il y a ceux qui sont contre qui viennent. Et quand on discute avec les gens qui sont contre, au bout d'un moment, on arrive à les convaincre.
Ouais. Alors, il y a le problème des transports. Comment vous faites, là aussi ?
Ben, les transports, on vient d'inaugurer un nouveau métro à Lausanne. On est devenu ainsi la plus petite ville d'Europe à avoir un métro. Et ça s'inscrit justement dans cette politique de densification des villes, parce que maintenant, il faut savoir qu'en Suisse, l'État fédéral met à disposition des fonds d'infrastructure pour autant qu'on amène la preuve de densification de la ville. Alors c'est également ce qui va se produire avec l'ancien stade. On va le remplacer par un écoquartier. On va rajouter 2000 logements durables et des activités en plus. Et avec ça, on pourra faire une troisième ligne de métro ou un tram. Oui. Ce qui ferait qu'on va avoir un taux de report modal qui va atteindre 40%, ce qui est beaucoup. Hein. Beaucoup.
Oui, oui. Et même un métro, parce que Lausanne, ça monte, hein, il me semble quand même. Donc,
C'est un métro automatique, style métro parisien, oui. Avec une pente de 12%. Donc là aussi, ça sera un métro sur pneus pour cette raison. Oui. Ça sera aussi un record d'Europe.
Puis vous développez les vélos électriques avec des bornes où on peut recharger la batterie.
Exact. On a sponsorisé, à l'époque, c'est Peugeot d'ailleurs qui faisait. Ouais. C'était dommage qu'ils aient arrêté, petite parenthèse, parce que c'était les seuls scooters qui, avec des batteries nickel-cadmium, tenaient facilement 5 ans. Parce qu'on sait que le problème des scooters chinois, par exemple, avec des batteries plomb, s'il faut changer les batteries qui font la moitié du prix du scooter après 18 mois, c'est pas une bonne image pour le scooter ni le vélo électrique. Oui. Mais là, maintenant, on a quand même à peu près 200 scooters et vélos électriques qui roulent à Lausanne et puis qui se rechargent effectivement sur ces bornes.
En ce qui concerne maintenant l'énergie, comment vous faites ?
L'épine dorsale de la gestion de l'énergie thermique, en tout cas à Lausanne, c'est le développement du réseau de chauffage urbain. Effectivement, on vient de construire une nouvelle usine d'incinération en ville, en pleine ville, parce que l'objectif, c'était d'arrêter de chauffer les oiseaux et puis de pouvoir valoriser cette énergie. Oui. Et bien sûr, on ne voulait pas créer un trafic de camions inhérent à une usine d'incinération, donc on a encore creusé un tunnel de 4 km à peu près pour amener directement les déchets en train à l'usine d'incinération.
En fait, si on n'est pas loin de ce réseau de chaleur, on est obligé en fait, d'y adhérer. Hein. Là-dessus, vous êtes assez clair.
C'est une loi qui a été modifiée récemment, effectivement, parce qu'avant, disons que c'était surtout une démarche volontaire. Avec cette nouvelle loi qui oblige les nouveaux bâtiments à se raccorder et les rénovations de chaufferie également, on va pouvoir effectivement atteindre une part égale de couverture géographique et part de marché. Et on devrait atteindre d'ici 2020, 2030, 50%.
Alors vous avez votre réseau de chauffage urbain avec donc cet incinérateur qui produit de la chaleur. Il y a autre chose ? Il y a une chaufferie aussi à côté ?
Bon, on a un réseau qui, par définition, a plusieurs points d'entrée. Donc, effectivement, on a d'un côté, on brûle également les bouts de la steppe. Et on a également une chaufferie à bois de 3 MW qui est branchée dessus.
Et alors, les bâtiments communaux, là, qu'est-ce que vous faites ? Là, je vois effectivement qu'il y a une campagne qui s'appelle Display. Qu'est-ce que ça veut dire, Display ?
Display, c'est l'étiquette énergie liée au bâtiment. Puis simplement, c'est adapter l'étiquette énergie que l'on connaît bien pour les appareils électroménagers au bâtiment.
Et puis, la relève, c'est les gamins. Alors, que faites-vous avec les enfants ?
L'idée, c'était pas simplement de planquer une affiche, une belle étiquette sur un collège et puis de rien faire d'autre. Donc, il fallait faire un peu une synergie. C'est pour ça qu'on a monté un programme de sensibilisation des élèves en question. Et puis, bon, on a été tellement, on n'a pas été surpris, mais donc ça a tellement bien marché qu'on a étendu le concept maintenant en intégrant carrément dans le cursus scolaire, mais de manière facultative, je précise, parce qu'en Suisse, on a l'habitude de faire tout sur un mode de volontariat. Donc maintenant, il y a à peu près 500 élèves par an qui sont sensibilisés à l'énergie à raison de 5 demi-journées par an.
Et ça fonctionne parce qu'ils viennent, les gamins.
Ah oui, ça vient. Le problème n'est jamais les gamins, c'est les professeurs qui doivent être volontaires parce que ça implique pour eux une charge de travail supplémentaire assez importante.
Oui, c'est ça. Demain, qu'est-ce que vous allez faire à Lausanne ?
Demain, on va continuer la démarche actuelle dans le sens... On a des grands objectifs au niveau de protection du climat, mais qui demandent de gros moyens. Alors l'objectif, c'est de massifier les petites actions qu'on a déjà pu entreprendre. On a un patrimoine immobilier très important. On a, comme je vous l'ai dit, aussi ce projet d'extension du réseau de chauffage urbain. L'objectif, c'est vraiment de diviser par deux les émissions de CO2 d'ici 2050.
Vous avez déjà commencé à mesurer ce que vous avez fait. On peut commencer à le mesurer en termes de gains
Ça, c'est l'objectif d'ailleurs du label Cité d'énergie ou Citergie. C'est des indicateurs, effectivement. Mais en termes de réduction de CO2, on estime qu'on a atteint 20% des objectifs de réduction du programme Suisse Énergie. Donc c'est un seul programme qui fait à lui tout seul 20% des objectifs.
Voilà, donc tout à fait intéressant, véritable volonté politique, véritable cohérence, autre manière de faire, mais c'est juste à côté de chez nous, hein, c'est incroyable, ben oui, c'est pas loin du tout. Et alors lorsque l'on parle quand même d'incinération, je vais tiens quand même à vous préciser une chose, c'est que 45% de la matière est déjà recyclée avant, c'est-à-dire qu'il y a un véritable tri qui est fait, c'est pas nos 12-15% chez nous en France, non, il y en a 45%, voilà, c'est une précision qui me semblait tout à fait nécessaire. On va poursuivre ce voyage, on va aller du côté de Saint-Brieuc tout à l'heure, mais ce sera... Après cette chanson, bah oui, Gorillaz, on y va.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's 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 coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end line. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, my future.
Gorillaz qu'interprétait Clint Eastwood. J'espère que vous allez bien, vous allez profiter de cette grande nappe de soleil cet après-midi. Et donc après le Libournais, après la Suisse, et bien on va partir du côté de Saint-Brieuc. Alors c'est bien parce que pour une fois on va pas parler de nitrate, d'algues vertes. D'abord le coin est superbe, faut le dire. Et avec Alain Cadec qui est conseiller général des Côtes d'Armor, c'est intéressant de voir ce qui se passe en matière de piscine. Alors racontez-nous cette action donc en cours et à venir.
Je crois que c'est quelque chose d'innovant et d'exemplaire puisque on est dans l'obligation en fait de refaire une de nos trois piscines parce qu'elle est devenue trop ancienne, elle est obsolète et donc on a choisi de la refaire quasiment sur site dans un quartier assez populaire de l'agglomération qui a le mérite, je dirais, on va découvrir que c'est un mérite, de se situer pas très loin en fait de la station d'épuration.
Ah, alors là évidemment on se dit piscine, station d'épuration, qu'est-ce qui va nous sortir ?
Ah oui, parce que piscine et station d'épuration, au départ, on ne voit pas vraiment le trait d'union et le lien qu'il peut y avoir entre les deux équipements.
Il y a des cochons qui aiment bien les bains de boue, mais bon.
Oui, en l'occurrence, oui. Mais ce qui nous a motivés, c'est que on s'est dit, il y a quelques années, on produit des boues avec des boues d'épuration et notre station d'épuration. On produit donc du méthane, on produit donc de l'énergie. Donc, avec cette énergie, on peut faire de la chaleur. Et l'idée, ça a été donc de chauffer la piscine et l'eau de la piscine, mais également toutes les infrastructures autour de la piscine, avec le méthane issu des boues d'épuration.
Donc ça va être une première.
Ah, c'est une première.
Si j'ai une petite envie, quel est le rapport avec la piscine ?
Eh bien, écoutez, à partir du moment où vous tirerez la chasse d'eau, vous participerez au chauffage de la piscine, puisque les effluents vont produire de l'énergie qui va produire de la chaleur et qui va chauffer la piscine. Donc c'est pour ça que je parle de cercle vertueux, parce que quand on tire la chasse d'eau ou quand on fait couler de l'eau sale dans un endroit ou dans un autre, on participe directement au chauffage de cet équipement. Alors c'est évidemment...
Non, ça n'incite pas à la pollution, on est bien d'accord.
Ah, surtout pas. C'est pas pour ça que je vous dis qu'il voilà. Faut tirer la chasse d'eau trop souvent dans la journée.
Oui,
parce qu'on a suffisamment d'effluents pour chauffer la piscine. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la piscine se situe dans un dispositif en rue. Et qu'on va également chauffer...
Rappelez-nous le dispositif en rue.
En rue, oui, c'est Agence Nationale de Rénovation Urbaine.
Voilà.
Ça veut dire qu'on refait le paysage urbain dans les quartiers dits populaires pour y faire des habitations beaucoup plus agréables à vivre. Et qu'une partie du chauffage des HLM qui se trouvent dans cet espace, dans ce quartier, va être également chauffée par la station d'épuration.
Ce qui est intéressant, c'est que là, cette histoire-là est quand même portée par, par vous-même. Mais je veux dire que d'un point de vue politique, les gens sont quand même tous d'accord.
Là aussi, l'aspect politicien a été complètement déconnecté puisque la communauté d'agglomération a changé de couleur politique. Nous avons été battus, mais le président actuel a souhaité que je conserve le pilotage de cet équipement. Ce qui démontre bien qu'encore une fois, quand on veut se montrer, j'allais dire intelligent, ou en tous les cas à l'écoute, on peut faire des choses ensemble.
Merci à vous Alain Cadec. Alors comme cette émission est tout à fait éclectique après ces initiatives, eh bien une autre séquence qui est tout à fait récurrente dans CO2 Mon Amour.
Distribution des prix. Carton rouge, carton vert.
Bonjour Denis Chessoux, bonjour France Inter, c'est Michel et je vous appelle de Verberie dans l'Oise, à 55 km de Paris. Parmi les thèmes que vous abordez régulièrement donc, dans CO2 Mon Amour, on entend souvent parler de santé environnementale. Eh bien, à Verberie, dans l'Oise, la population s'interroge. On a en effet un projet de centrale électrique qui est mené par Direct Énergie, qui va s'implanter sur les hauteurs de la ville, en devenant par là même le 13e site le plus polluant de France, en crachant 1 800 000 tonnes de CO2 par an. Mais ce que Direct Énergie, donc le promoteur du projet, ne dit pas, c'est qu'en plus de ces gaz à effet de serre, la centrale va recracher des centaines de tonnes annuelles d'oxyde d'azote, dioxyde de soufre, microparticules et autres polluants qu'on associe aujourd'hui clairement aux maladies respiratoires, et aussi à certaines formes de cancer. À très bientôt et bonne journée.
Bonjour. Je voudrais vous dire que la ville d'Aix-en-Provence est aujourd'hui menacée d'asphyxie. Parce que Aix-en-Provence, c'est une cuvette qui a besoin de ses collines autour, de ses poumons verts. Alors favoriser la délocalisation de deux énormes polycliniques sur un des derniers poumons verts qui reste à Aix-en-Provence, le massif du Montégué, ça ne devrait même pas venir à l'idée. Et pourtant, c'est ce que la mairie s'apprête à faire. Alors nous disons, pourquoi à cet endroit ? Pourquoi déclasser ce site classé ? Pourquoi déforester ce qui est boisé ? Pourquoi détruire sur des dizaines d'hectares un paysage majestueux ? Pourquoi installer sur nos collines l'équivalent de la moitié d'un hôpital avec 800 places de parking à ciel ouvert ? Pourquoi surtout favoriser ce projet privé ? Au moment même où l'hôpital public, en général, et celui d'Aix en particulier, a cruellement besoin de moyens. Pourquoi créer un précédent désastreux en modifiant un POS sur un site boisé incendié, ce qui ne pourra qu'encourager à l'avenir la multiplication des incendies sur tous les sites naturels intéressants du pays d'Aix, et même en Provence. Alors, on lance un appel aux Aixois, bien sûr, mais à tous les Français qui en ont assez de voir la France défigurée en raison du montage politico-financier auquel ils ne comprennent en général pas grand-chose et avec des enquêtes publiques bâclées sans concertation véritable. Alors nous les appelons tous à écrire à Madame le maire d'Aix-en-Provence pour lui dire non Madame, nous ne voulons pas du béton sur la colline du Montégué, Nous voulons que respire Aix-en-Provence. Voilà, je pense que cette lutte, elle compte aussi pour toute la France. Il faut que les gens, désormais, s'opposent à ces sortes de projets et protègent ce qui peut encore être protégé des paysages français. Merci.
Carton vert.
Carton vert avec Antoine Saxe, chronique sans carbone. Antoine Saxe, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est, chronique sans carbone, dites-nous tout.
Alors c'est une chronique, comme son nom l'indique, où on essaye d'avoir le moins de carbone possible dans le processus de fabrication des reportages.
Ouais.
Alors l'idée, c'est de se déplacer à moindre coût, ouais. À la fois un coût énergétique, donc qui est fortement baissé par le fait que je me déplace en train, et j'utilise un vélo électrique, voilà. Donc je mets mon vélo électrique dans le train. Une fois arrivé sur place, je peux aller à mon rendez-vous sans problème et sans dépenser la moindre goutte de pétrole. Et puis ça coûte beaucoup moins cher au final, évidemment.
Alors le premier reportage que l'on peut voir effectivement sur le site chronique-sans-carbone.com, consacré donc aux éoliennes, avec quand même quelques idées reçues, parce que c'est une grande guerre actuellement. On voit très très bien en France, il y a les pour, il y a les anti, enfin tout le monde s'y met.
Ouais.
Interview de Corinne Lepage, interview effectivement de personnes qui vivent aussi pas loin des éoliennes.
Oui, puis on voit se dessiner un paysage un petit peu inquiétant si on a envie que l'éolien se développe en France. L'éolien a été très récemment a fait l'objet d'une polémique, on peut dire, avec l'Institut Montaigne qui a commandé un rapport à un certain Vincent Lebiez, qui coule toutes les éoliennes, en fait, qui considère qu'elles sont coûteuses, peu rentables, polluantes au niveau visuel, donc un impact visuel, etc., etc. Et ça a été contesté, notamment par Corinne Lepage, qui n'est pas connue pour être une affreuse gauchiste. Donc Corinne Lepage explique comment l'éolien est en train, aux États-Unis par exemple, de devenir aussi rentable, voire plus rentable que le nucléaire.
Oui, parce que le kilowattheure sort à peu près à 3 cents. Alors c'est vrai que chez nous, c'est encore cher à 57 centimes du kilowattheure, mais d'ici 2012, 2015, voire 2020, eh bien on pourra effectivement avoir des tarifs extrêmement dégressifs. Donc ce sera concurrentiel peut-être.
Alors il y a aussi le contexte, on parle des grandes éoliennes qu'on voit tous quand on traverse la campagne, c'est ces éoliennes immenses, mais il y a aussi la question des éoliennes pour particuliers.
Oui.
Et depuis 2007, les particuliers ne peuvent plus revendre automatiquement la production de leurs éoliennes, donc les surplus d'électricité à EDF. Et ça c'est un problème. Puisque auparavant, donc ça encourageait évidemment comme les panneaux solaires sont toujours soutenus, mais les éoliennes ne sont plus soutenues, sauf si on habite dans une zone de développement éolien. Et donc ça, c'est des zones où on implante de préférence des grandes éoliennes. Alors évidemment, je peux concevoir qu'on n'aime pas habiter au pied d'une éolienne de 45 mètres de haut, etc. Mais quand on a envie de mettre une éolienne dans son jardin, maintenant, on est obligé d'avoir recours à un fournisseur d'électricité verte, en l'occurrence, qui peut éventuellement racheter l'électricité, ce que EDF ne fait plus.
Alors, une fois de plus, hein, et on le sait dans cette émission, il ne s'agit pas de se dire « telle énergie, et youpi, tralala, est la meilleure du monde », etc. Mais pas du tout. C'est effectivement de se dire qu'un jour, on aura un véritable bouquet énergétique qui n'existe pas encore en France. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça coûte cher. Oui, bien sûr, il y aura des subventions, il y aura tout ça. Mais donc, c'est intéressant donc, de voir ce qui se passe dans cette chronique sans carbone d'Antoine Saxe que nous suivrons allègrement sur son vélo électrique dans cette émission. Et dans quelques instants, on vous donnera des nouvelles de la France, mais en 2030, oui, avec un garçon qui fait de la prospective, qui est Frédéric Danhoué. Musique ? Oui, on y va.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il faudra, le petit monsieur ?
Bonjour, j'aurais une baguette, s'il vous plaît.
Il la veut comment, sa baguette bien moulée ?
Oui, en fait, c'était justement, je voulais vous dire...
Pardon ?
Laisse-moi t'emmener vers un autre univers. Quittons les fours de Vulcain. Oh ma boulangère, en pousse-pousse, nous traverserons la forêt noire pour l'opéra viennois, écouter du Mozart. Oh ma fleur d'oranger, au paradis financier, nous serons repartis, nous dorer les miches.
La campagne,
dégustant boule coco à l'ombre des palmiers, sous le ciel guimauve des îles Sandwich.
Alors j'ai cru dit tout.
Un nappage léger de crème sur ton corps marbré. Nous nous enivrerons sur la plage sablée. Oh ma chouquette,
je vous en mets sans
mon fruit de la passion.
En brique ou en canette?
Hein?
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non. Non, car une armée de Malabar fera un coup d'état diplomate. Je leur enfilerai 1000 feuilles par-ci par-là pour les faire marcher à la baguette.
Pas trop cuite la baguette.
Mais ils tenteront de nous tuer, on se barra en cachette.
Je vous la coupe.
On se sauvera, pas temps de souffler pour toi, mamie. Je construirai un radeau en bâton de réglisse. Nous glisserons sur la rivière de Cacolac.
En vrai, moi,
je tirerai au flanc les crocodiles qui nous attaquent. Et puis on sera sauvés, tous les deux, toi et moi. Dans un élan d'amour, je prendrai ta langue de chat.
Hein?
Oh mon chou.
Je vous en mets 100 grammes?
Oui, oui, oui.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Et avec ceci?
Oui.
Ce sera tout?
Non.
Ce sera tout?
Non.
Oh, ce sera tout?
Non. tout, on m'a promis. Mais j'ai encore du rêve dans ma pochette surprise. Accroche-toi à cette ficelle,
pas trop cute, la ficelle.
Et grimpons vers le ciel. Décrochons des croissants de lune pour nos amours en meringuée. Pour fondre dans l'espace à bord de soucoupes acidulées. Les étoiles seront à nous.
Ça sera tout.
On fera un avec l'infini, on sera un tout.
Ça sera tout.
Non.
Ça sera tout.
Non, bah attends.
Ça sera tout.
Oh non, attends.
Allez au suivant.
Quoi?
Allez au suivant.
Je
allez
crois
monsieur.
Commençons au suivant. Ça fait une heure là que je me presse le citron pour faire des jumeaux. Tu restes frigide comme une religieuse, hein? Que non.
Qu'est-ce qui se ramène sa fraise de bâtard? Non mais attends, il a pas vu sa tronche de caisse.
T'as vu ta tronche de ton, toi?
Ouais, bah moi j'ai pas soufflé ta ganache.
Tu crois que je te quiche?
Non, mais attends, non, mais il va t'affermer sa gueule, la petite pièce.
M'en fous, moi, de ton boulangerie, moi. Ton racine.
Ouais, bah moi j'ai ta coupe en tronche, t'as dragé.
Mais reste baigné dans tes chaussons, moi dis. Boudin, va.
Non mais t'as appris ta poésie dans les 49.
Dans les 49.
C'est bien, ça t'a appris ta poésie dans les carambars. Voilà, c'était donc une chanson d'amour, on l'a bien compris avec Java. Non, mais c'est très très sympa, et donc choisi par Emmanuelle Chupin, notre programmatrice. Alors, sous les yeux, un livre qui s'appelle « Quelle France en 2030 » aux éditions Armand Collin. Derrière le livre, il y a un auteur, un garçon qui est spécialiste de l'environnement, qui est journaliste scientifique, et qui en doit aussi l'atlas du réchauffement climatique, et qui nous dit quel sera l'impact du dérèglement sur nos paysages, nos côtes, notre agriculture, notre biodiversité, nos villes, nos modes de vie. Donc on va décliner cela au cours des semaines qui vont venir, donc avec vous Frédéric Danvé. Frédéric, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Frédéric, vous êtes parti quand même en prenant ce risque de la prospective, ce qui est intéressant parce que peu de gens en fait se mouillent. Déjà effectivement, 2030, parce que c'est abordable pour tout le monde, parce qu'a priori on sera tous en vie en 2030.
Oui c'est ça, puis parce que les sociologues nous apprennent qu'il faut une génération pour que les choses, les décisions qu'on a prises maintenant commencent à dégager leurs conséquences. Il faut 20 à 25 ans. Voilà, que ce soit pour une évolution de la société ou une évolution technologique, il faut 25 ans. Alors l'idéal aurait été, compte tenu de l'inertie de la nature et quand même de la société française, de tirer jusqu'à 2050. Mais c'est un peu loin 2050. Oui. Je pense qu'en 2050, je ne serai plus là. Voilà, 2030, ça me rassure un peu plus. Je serai encore là.
Je comprends bien.
J'aurai 60 ans. A priori, j'arriverai encore à pouvoir rouvrir mon livre pour savoir, pour me rendre
si
compte.
Si vous avez eu raison ou non.
Oui, voilà, mais oui, mais oui.
Alors en tout cas, le dérèglement climatique, vous le dites, a ceci de bon qui nous oblige à nous projeter quand même dans un avenir assez proche. On n'a pas le choix. Donc, la France va ressembler à quoi, je dirais globalement? Parce qu'après, dans les semaines qui vont venir, on va décliner différents postes. Mais à quoi elle va ressembler globalement?
Elle ressemblera moins à celle qu'elle est aujourd'hui. Elle ressemblera surtout pas du tout à celle qui a émergé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la société française telle qu'elle était conçue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous un climat qui ne sera pas du tout celui vers lequel on va.
On rappelle que le climat était en équilibre depuis à peu près 8000 ans. 8
à peu près, malgré quelques sauts, on connaît le petit optimum romain, le petit optimum médiéval, le petit âge glaciaire dont on est sorti vers 1860. Donc malgré ces cycles naturels, on avait un climat à peu près stable. Et depuis, depuis 1900 et surtout depuis les années 50, tout grimpe en flèche. Et les taux de gaz à effet de serre, et la température, le niveau de la mer, etc.
Alors nos saisons vont ressembler à quoi?
Eh ben, nos saisons vont s'affirmer, c'est-à-dire que ça, c'est la tendance actuelle qui est quasiment certaine depuis 1976. La tendance actuelle, c'est quoi? C'est des étés de plus en plus estivaux, donc oui, des étés de plus en plus secs et des hivers de plus en plus humides. Donc autrement dit, en 2030, sur l'ensemble de la France commencera en été à ressembler à la Côte d'Azur d'aujourd'hui en été. Et en hiver, l'ensemble de la France commencera à ressembler à la Bretagne, à Bordeaux, enfin à toute la côte atlantique en hiver. Ça, c'est la tendance qui est quasiment certaine. Alors ça peut évoluer sur 5-6 ans, il peut y avoir des sauts. D'aucuns disent qu'il n'y a pas de réchauffement parce qu'on a eu un hiver très froid, ou d'autres disent qu'on a eu une tempête là, c'est au contraire à cause du réchauffement. Non, on ne peut rien dire. Ça, c'est sur des événements trop proches, ça, c'est de la météo. Ce qui compte, c'est la tendance. La tendance sur 50 ans. Et la tendance sur 50 ans, c'est celle-là. Tendance qui est confirmée, renforcée, densifiée par les modèles climatiques qui montrent bien que la tendance dégagée depuis une cinquantaine d'années, et en particulier depuis 1976 à peu près, cette tendance, c'est celle-là. Des étés plus chauds, plus secs, et des hivers plus doux, mais plus humide. Et évidemment, entre-temps, des intersaisons, le printemps et l'automne, qui sont chargés en gros de transférer les calories de l'été à l'hiver, donc qui seront nécessairement plus aléatoires, un peu plus violents, donc avec peut-être des coups de mer plus forts ou plus fréquents, avec des pluies tout d'un coup plus violentes, ou des coups de gel de plus en plus tard. Donc voilà, ça n'est absolument pas contradictoire. Donc si vous voulez, c'est simplement que le côté aléatoire de la météo va se renforcer, avec une tendance à long terme, à l'assèchement en été, et à l'inverse, à l'adoucissement en hiver.
Un climatologue m'a mobilisé récemment, alors il n'était pas sur 2030, mais peut-être un petit peu plus loin, il me disait, mais vous verrez, nous passerons nos hivers davantage au bord de la mer, et nous passerons nos étés davantage à la montagne.
Eh oui, mais d'où les problèmes d'aménagement du territoire,
voilà.
Et en particulier sur la montagne. En montagne, la limite d'enneigement augmente, donc il y a des stations de ski qui devront fermer, et qui devront, si elles étaient intelligentes, ce qu'elles ne sont pas encore, parce qu'il n'y a pas encore de politique mise en place, elles devraient d'ores et déjà investir pour accueillir effectivement les touristes qui vont fuir la Côte d'Azur, c'est inévitable, simplement pour trouver la fraîcheur qu'on ne pourra trouver dans le sud et dans l'est de la France qu'en montagne.
Alors aujourd'hui, Frédéric Danhué, un mot, c'est-à-dire anticiper et puis aussi action derrière. Parce que tout ceci, comme on dit joliment, va impacter à la fois l'urbanisme, les villes, l'architecture, l'énergie qui est quand même la clé de l'affaire, l'agriculture, les voitures, les transports, le littoral, le tourisme, la politique et aussi la démocratie.
Mais enfin, tout, oui. Tout. La société française est confrontée là à deux problèmes. Un, c'est un climat pour lequel elle n'est pas conçue. Deuxièmement, c'est un coût de l'énergie. Et un coût des ressources naturelles qui obère de facto le modèle économique qui est basé sur la gratuité des ressources naturelles. On ne les rentre pas en ligne de compte et qui est basé sur une quasi-gratuité de l'énergie qu'on ne paye absolument pas à son prix compte tenu du fait que les stocks de pétrole et de gaz s'amenuisent tous les ans et qu'on approche, si ce n'est déjà fait, du fameux peak oil. Donc les deux mamelles de notre développement, un climat relatif tempéré dans le bon sens du terme, et un coût énergétique très faible, ces deux mamelles se tarissent. Donc la société française est confrontée à c'est plus qu'un changement, c'est un bouleversement de la civilisation, un bouleversement de notre système économique, de notre rapport au monde, donc de l'aménagement du territoire, de l'organisation des transports, et fatalement de la politique.
Et point d'interrogation, l'eau sera imprévisible.
C'est bien le problème. Un climat peut s'y adapter. La ressource en eau, c'est vital. Si vous voulez, la quantité d'énergie que la hausse de la température a donnée en plus à la machine climatique, ça se traduit surtout par une accélération du cycle de l'eau. Donc ça veut dire que l'eau qui va nous tomber du ciel continuera de tomber, mais elle tombera plus violemment, plus brutalement, elle tombera plus là où il pleut déjà, mais elle risque de tomber moins là où elle ne tombe pas beaucoup. Sur les fleuves, par exemple, on aura des niveaux d'étiage qui seront atteint plus précocement. Et à l'inverse, on aura des crues forcément plus fréquentes parce que la fonte va arriver plus tôt. Donc ça remet en cause, bien évidemment, l'aménagement du territoire. Où est-ce qu'on va construire de part et d'autre des fleuves? Ça remet en cause l'alimentation en eau fraîche des centrales nucléaires. Ça remet en cause le tourisme. Ça remet en cause plein de choses. Les fleuves, malgré le camion, c'est structurant pour l'aménagement du territoire.
Alors on va faire comme Paul Virilio, on va se dire qu'effectivement, ce genre de choses qui peuvent extrêmement faire peur sont aussi une opportunité.
Ah ben évidemment. Il faut quand même se rendre compte que ce bouleversement auquel la nature et la raréfaction des ressources naturelles nous obligent à faire face, ce bouleversement, c'est pas une guerre. Il y a toujours eu un moteur de changement dans les sociétés, c'est la guerre. On en a connu deux au XXe siècle. On s'en est sorti. Là, il faut nous obliger finalement à changer la société en profondeur, avec la même profondeur que les changements opérés par une guerre rapide. Il faut nous obliger à atteindre une sobriété énergétique, celle qui était que connaissaient nos grands-parents. Eux connaissaient cette sobriété, le fait de on ne jette rien, on récupère l'eau de pluie. Ils y étaient obligés parce que par la force des choses économiques. Là, on est obligé de s'obliger à cette sobriété, alors que le modèle économique continue à nous faire croire que le monde est en quantité infinie, que tout va aller bien. C'est cette idée de croissance, il faut quand même revenir là-dessus. L'économie, la création de biens et de salaires va augmenter de X% tous les ans. Donc c'est une idée d'infini. Le problème, c'est que fabriquer des machines, des téléphones portables, à partir desquels on paye des salaires, ça consomme des ressources naturelles, ne serait-ce que l'eau, qui sont en quantité finie et qui sont de plus en plus chères et qui vont générer de plus en plus de problèmes géopolitiques parce que l'accès à ces ressources sera de plus en plus difficile. Donc le monde, oui, il est forcé de changer.
Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.
Merci Denis, à bientôt.
Alors le à bientôt avec Frédéric Danhuy, ce sera la semaine prochaine parce que l'on parlera beaucoup d'agriculture. Donc quelle France agricole en 2030, donc là aussi de la prospective, hein, donc avec Frédéric Danhuy. Et puis je vous emmènerai dans le parc naturel régional des Bauges, si vous connaissez ce très joli coin qui est à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et bien là vous avez un parc assez magnifique et on parlera des prairies fleuries. Qu'est-ce que c'est les prairies fleuries? Donc là nos amis éleveurs seront à l'écoute parce que ça les intéresse bien et qu'il y a aussi des changements de comportement tout à fait intéressants. Intéressant. Il y aura aussi, bien sûr, Jean-Marie Pelt. Merci à Ronan Mahé, Olivier Leroux à la technique aujourd'hui, à Sophie Ledoré, Céline Bézi, nos assistantes, Jean-Christophe Epinaza, Lou Séropian, notre stagiaire pendant cette semaine, et Fanny Beauillon qui réalisait l'émission. Merci à Anne Gouzon, notre cyber-documentaliste qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Possibilité pour vous de réenregistrer cette émission pendant une semaine, de la réécouter pendant 4 semaines et puis de retrouver aussi Brigitte Palchine dans son émission nocturne avec CO2 à 4h du matin. Voilà, vous savez presque tout. La Tulu Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h55 après les petits bateaux de Noël Bréham. Et dans quelques instants, bah écoutez, Fabienne Chauvière avec un homme assez remarquable, Marc Dufumier, qui est un agronome étonnant.
On est à Madagascar. On est dans les rizières, et c'est ce qu'on appelle le piétinage d'une rizière. Eh bien, les gens, pour mettre la terre en boue, ils n'ont pas d'outils attelés derrière les bœufs. Et du coup, ils sont obligés de faire tourner leurs bœufs dans la rizière jusqu'à ce qu'à force du piétinage, le sol soit mis en boue. C'est exténuant pour les bœufs, c'est évidemment exténuant pour les gens qui suivent le troupeau. Sachez quand même que la surface que peut faire un actif, ça ne dépassera jamais un demi-hectare.
Sur une année.
Oui.
Voilà, restez à l'écoute de France Inter, donc laissez aventurier dans quelques instants. France Inter, il est 15h.